Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, permettez-moi de vous adresser quelques mots de bienvenue au commencement de ce colloque international « Le constitutionnalisme global ». Bienvenue au nom de l'Institut Michel Villet, qui a le grand privilège et le plaisir de vous accueillir et d'accueillir nombre d'intervenants éminents. Et bienvenue aussi au nom de la revue Ius Politicum, dont c'est la première journée annuelle. Nous espérons chaque année organiser de cette manière une journée thématique qui nourrira évidemment le contenu de la revue, mais qui sera aussi l'occasion pour nous de réaliser le projet de cette revue fondée en 2008 et qui avait pour but de renouveler les approches dans le domaine de la discipline du droit constitutionnel. Quel meilleur sujet pour renouveler et ouvrir les approches en droit constitutionnel que ce thème du constitutionnalisme global. Nous avons fait le constat, en tant que constitutionnalistes, mais aussi avec nos amis internationalistes, et je pense en particulier à Olivier Trouville, ici présent, que ce thème n'était pas l'objet d'un intérêt et d'une connaissance suffisante en France. Alors je parle ici du droit constitutionnel, en réalité c'est plutôt quand il a été abordé par des internationalistes qu'il l'a été, mais sauf erreur de ma part, ça n'avait pas fait l'objet d'une journée de recherche ou d'une publication dans une revue sur ce thème jusqu'à maintenant. Pourtant, quel thème plus actuel et quel thème plus fédérateur que le constitutionnalisme global? Nous le verrons à travers toutes les interventions de ces deux très belles journées. Je dois tout de suite, et je le fais avec beaucoup de plaisir, vous dire, puisque la mode est à la transparence et à la déclaration des conflits d'intérêts, que je n'ai que très peu à voir avec l'organisation de cette conférence, qui a été entièrement faite par ma voisine, le professeur Alvec Boussac, et que si mon nom apparaît sur le programme, c'est purement et simplement frauduleux. Toute l'organisation revient à Manon, et je peux vous dire que c'est un travail extraordinaire de sa part que la préparation de cette journée, comme tout colloque international, même si tous nos collègues allemands, belges, italiens et de différentes parties du monde nous ont fait un très grand plaisir, ont été très généreux de leur temps, l'organisation matérielle a été quand même extraordinaire. Donc je remercie vivement Manon avec Boussac. Nous avons donc le privilège de recevoir les meilleurs spécialistes de cette problématique du constitutionnalisme global. Je leur en suis infiniment reconnaissant, on les remerciera au fur et à mesure naturellement. Je découvre avec effroi, avec beaucoup de reconnaissance et d'effroi mêlé, vous allez comprendre pourquoi ce mélange de sentiments, que le professeur Cassizet, qui nous fait l'immense honneur de faire le keynote speech de cette conférence, va parler en français. Et ça, c'est la joie et la reconnaissance, parce qu'il nous fait le grand plaisir de nous présenter une intervention dans notre langue du pays d'accueil. L'effroi vient du fait que je découvre à cette occasion que je serai le dernier et le seul à parler en anglais, ce qui sera un peu risible, mais bon, ça, c'est un problème qui n'appartient qu'à moi. Nous allons organiser notre matinée de la manière suivante, si tout le monde le veut bien. Manon Alvec-Boussac va nous donner quelques éléments et quelques propos d'introduction sur la question du constitutionnalisme global dans un premier temps. Ensuite de quoi, et je propose sans question dans l'intervalle, nous aurons le grand plaisir et l'honneur, comme je viens de le dire, que le professeur Sabino Cassese, que nous connaissons tous et que nous aimons tous infiniment, nous fasse le plaisir de nous présenter son intervention sur le thème que je ne connais donc qu'en anglais, « World Constitutionalism, is there a global constitution ?» Enfin, le français n'est pas très difficile à trouver. On va donc procéder de cette manière, si vous voulez bien. Je vais donner la parole à Manon pour 20-25 minutes, quelque chose comme ça, voilà, pour les propos liminaires. Merci beaucoup à tous.
Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse que ce colloque prenne forme aujourd'hui et je tiens aussi à remercier très chaleureusement les intervenants éminents qui ont accepté nos invitations. Alors, je dois dire que ça a été une expérience très agréable que de préparer ce colloque. J'ai eu l'occasion en effet d'avoir quelques échanges avec les uns et les autres, avec les intervenants, mais aussi avec d'autres spécialistes de la question. Et donc, à cette occasion, j'ai moi-même beaucoup, beaucoup appris. Ce colloque a donc pour objet le constitutionnalisme global, qui relève essentiellement d'une notion doctrinale, et un ensemble de discours, donc, dont l'objet est de penser des rapports juridiques sur la scène supra-transnationale en utilisant le langage et les notions du constitutionnalisme. Alors, après un grand plongeon dans la matière, deux impressions se sont dégagées. La première impression que j'ai eue a été d'être finalement noyée progressivement dans le global. En effet, le constitutionnalisme semble partout. Tous les juristes et même les sociologues, les philosophes, voire parfois les historiens, s'y intéressent d'une manière ou d'une autre. Il est partout et donc finalement nulle part. Et au départ, il y a de quoi en perdre ces notions de droit constitutionnel. Quiconque en effet s'intéresse à cette question, à cette thématique, se rend vite compte de l'extrême diversité de ces discours. Et le problème, c'est que ces discours ne se rencontrent pas toujours. C'est-à-dire que l'espace de la confrontation ou de la discussion n'est pas toujours bien délimité, soit parce qu'il ne se situe pas toujours sur le même niveau de langage, soit parce que, finalement, chacune des disciplines imprime ses propres concepts, ses propres habitudes, et donc son propre langage. La seconde impression que j'ai eue a été celle d'une certaine dramatisation, ou du moins d'une inquiétude. En effet, alors non pas la mienne, quoique elle a pu du coup rejaillir sur moi, mais plutôt une inquiétude que l'on perçoit parfois entre les lignes, je force un peu le trait, mais je vais en donner quelques exemples. Par exemple, parfois, on a le sentiment que l'on est face à une alternative triviale, ou bien sombrer dans l'utopie, pour les néo-kantiens, enfin kantiens et néo-kantiens, ou bien sombrer dans une forme d'apologie du pouvoir, puisque, notamment pour les réalistes, qui ne verraient que désordre et rapport de force. Certains termes également retiennent l'attention, comme par exemple, on retrouve souvent dans les articles le champ lexical de l'angoisse, l'angoisse qui serait ressentie par certains réfractaires à ce discours du constitutionnalisme global qui remettra en cause la notion même de souveraineté. Également trouve-t-on parfois la référence à un appel, un recours, invitant à faire ce grand saut dans le langage du constitutionnalisme global. Et puis, pour couronner le tout, une tension est parfois palpable, puisque les discours évoquent parfois un affrontement et ses impasses, de sorte qu'il faudrait finalement prendre position, c'est-à-dire ou bien être pour, ou bien être contre, penser la Constitution et le constitutionnalisme, donc au-delà de l'État. J'en perds mon cheval. Il faut donc dépasser ces premières impressions pour ne pas être perdu ni sombrer dans l'angoisse. Et je vais donc choisir la simplicité en disant quelques mots sur les moments, les concepts et les tensions et les questions. Décidément. Donc les moments, les concepts et les questions du constitutionnalisme global. Des moments d'abord, des moments parce que ces discours sur le constitutionnalisme global s'inscrivent dans un contexte qui est historique et contingent. Il apparaît, il disparaît parfois, il a ses pics de vitalité, ses tournants, ses replis, puisque finalement la question n'est pas nouvelle. La question n'est pas nouvelle. Le constitutionnalisme global renvoie d'abord à un lieu familier de la philosophie du droit, le cosmopolitisme kantien, qui inspire nombre de philosophes et juristes. Et ce cosmopolitisme dessine une société mondiale fondée sur ce que Kant appelait un droit public de l'humanité, dépassant les territoires de la souveraineté de l'État et du corps politique. Cet horizon d'une société mondiale a donc sans doute toujours inspiré une partie de la doctrine internationaliste, et notamment la doctrine allemande. Le projet du constitutionnalisme global a pris une forme institutionnelle entre les deux guerres, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, et principalement dans les années 90, à la fin de la guerre froide, qu'il a connu son apogée. Ensuite, alors je dresse assez sommairement ces moments, il y eut ensuite certains moments ponctuels de cristallisation de la thèse constitutionnaliste. Je pense notamment à certaines thématiques comme les discussions autour de la Charte des Nations Unies, qui serait une constitution mondiale. Le débat avait été ravivé par Habermas. Je pense au débat sur la Constitution européenne ou ceux relatifs à l'Organisation mondiale du commerce et à d'autres organisations. Ces 15 dernières années, le temps semble plutôt être celui de la banalisation, puisqu'on trouve une littérature exponentielle, foisonnante. Les formules et les labels se multiplient, multilevel, fragmentation, différentialisme, pluralisme ordonné, constitutionnalisme doux, théorie des réseaux, etc., etc., dessinant en même temps des écoles de pensée, de sorte que certains auteurs observent une banalisation qui serait parfois proche de l'enlisement. Et on pourrait d'ailleurs se demander s'il y a encore quelque chose à dire sur le constitutionnalisme global. Le contexte actuel n'est-il pas celui d'une forme de repli ? Certains se posent la question. Ainsi, notamment, dans son éditorial de 2017, la revue de Cambridge consacrée au constitutionnalisme global évoquait ce contexte actuel, celui des nationalismes, de l'unilatéralisme et des menaces idéologiques. Et cet éditorial donc insistait sur l'absence d'autres alternatives que celle du constitutionnalisme global. Aussi, si la question demeure perçante à défaut d'être nouvelle, c'est sans doute aussi parce qu'elle a qu'elle porte en elle une certaine charge politique et contextuelle. Des moments donc et des concepts. Des concepts puisque les discours du constitutionnalisme global bousculent toute une série de concepts qui sont traditionnels pour le constitutionnalisme, ceux de peuple, d'État, de légitimité, de démocratie, de souveraineté et bien sûr de constitution. Le terme de constitutionnalisme lui-même renvoie à un mouvement d'idées, celui d'une philosophie libérale qui naît au XVIIe et XVIIIe siècle et qui voit dans la limitation du pouvoir la condition de la liberté. Mais cette dimension philosophique n'est pas toujours présente. Autrement dit, ce que l'on observe, c'est que finalement, les auteurs dissèquent certaines caractéristiques de la Constitution pour en prendre certains caractères qui ont toujours quelque chose à voir avec la notion de Constitution que l'on connaît. Pour donner un bref aperçu de ces approches de la Constitution, alors je vais me contenter de résumer à trois conceptions. D'abord, la Constitution peut s'entendre comme une forme institutionnelle, avec toute l'ambiguïté qu'il y a entre limitation et fondation du pouvoir. Les auteurs décrivent ainsi, reprenant cette approche, des processus de constitutionnalisation. Celui, par exemple, des Nations Unies, de l'Union Européenne ou d'autres organisations mondiales du commerce, d'autres comme l'OMC, comme l'Organisation Mondiale du Commerce. Deuxième approche, la Constitution se comprend aussi comme un ensemble de valeurs. Et cette fois, c'est plutôt une approche axiologique, c'est-à-dire que les auteurs insistent sur le volet sur la garantie des droits et libertés. Ils s'intéressent ainsi aux garanties juridictionnelles de la protection de ces droits et libertés, en prenant en compte notamment les valeurs les techniques de proportionnalité et autres et d'équivalence des droits, par exemple. Enfin, la notion de constitution peut aussi être prise au sens de constituer. Et cette fois, elle renvoie alors à des régimes, des systèmes qui s'autonomisent et qui tentent à créer leurs propres structures, publiques ou privées, voire des structures sociales. Trois conceptions de la Constitution, alors ça, parfois elles sont, on en trouve d'autres, mais pour les résumer, je préférais, pour que ce soit plus simple, en retenir que trois. Et je voudrais faire maintenant trois remarques sur ce langage conceptuel. D'abord, les discours oscillent entre une approche formelle ou informelle lorsqu'ils utilisent ce langage du constitutionnalisme. En effet, certains insistent sur l'aspect formel de ces processus d'institutionnalisation, d'autres relèvent la dimension informelle du constitutionnalisme qui s'accommode ainsi parfaitement des phénomènes de déformalisation du droit international. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ce qui fait le terrain de sa critique. Si le constitutionnalisme ne se réduit pas aux formes, c'est aussi précisément parce qu'il contient une dimension politico-morale qui pourrait lui faire défaut sur la scène internationale. Deuxième remarque, les discours aussi entre un langage descriptif et un langage prescriptif. Il y a toujours une dimension descriptive, c'est-à-dire que les auteurs décrivent des processus, des jurisprudences, un droit existant, des phénomènes existants, mais il y a aussi souvent un élément prescriptif qui est parfois assumé, qui est parfois aussi déplacé au niveau métathéorique. Par exemple, il pourrait parfois être déplacé lorsqu'on s'intéresse à une condition de pensée du droit, un comme-si du droit, notamment dans une approche type kelsenienne. Enfin, troisième remarque, l'utilisation de ce concept de constitution est parfois adaptée, parfois redéfinie. Il y a à cet égard une certaine ambiguïté dans le recours au concept du constitutionnalisme, Parce que dans un cas, il s'agit d'adapter des concepts de départ, c'est-à-dire que l'on reste dans le référentiel de l'État et l'on on évalue des processus de formation, de constitutionnalisation du droit international qui seraient en progression ou en voie de développement, et donc on reste dans le référentiel étatique finalement. Soit l'on sort totalement de ce prisme, et alors c'est le concept lui-même qui est redéfini pour épouser d'autres structures, d'autres relations, d'autres formes juridiques. Peut-on ainsi adapter, redéfinir les concepts ? Une réponse négative présente potentiellement un risque, celui de tomber dans une forme de circularité ou d'essentialisme. Par exemple, il n'est pas totalement satisfaisant de considérer que, par exemple, il n'est pas vrai qu'il existe une constitution au-delà de l'État parce que la constitution ne se conçoit que dans l'État. Donc de cette manière, on ne résout pas le problème puisque soit on fait référence à une forme de concept essentialiste de ce qu'est la Constitution, soit on tombe dans une circularité, la Constitution n'est pas cela puisqu'on la définit autrement. J'en viens maintenant aux questions. Ah oui, pour ajouter quelque chose à ce que je viens de dire, cela montre qu'il faut s'intéresser plutôt à l'attrait heuristique des concepts et s'intéresser non pas à la question de savoir s'il est vrai qu'une Constitution internationale existe, mais s'il est intéressant, s'il est utile sur le plan heuristique, que d'utiliser le langage du constitutionnalisme pour décrire une société mondiale, ou des sociétés mondiales. Les questions maintenant, alors il y en a tant, mais je vais me contenter d'exposer trois séries de questions par ordre croissant de niveau de langage. Première série de questions, elle touche le droit positif, le langage objet. Tous les discours du constitutionnalisme global mobilise des exemples, des textes, des pratiques, des jurisprudences de manière à conforter le caractère opératoire utile de leur lecture. Ainsi, se réfère-t-il par exemple au jus cogens, aux normes impératives, à l'existence de techniques de balancing, à des méthodes d'interprétation plus ou moins téléologiques, etc. Mais il y a aussi des contre-exemples, des cas critiques qui perturbent parfois la pertinence de ces discours. Par exemple, ainsi en est-il de la question des immunités étatiques, de la question des compétences, ou bien de celle du cas du Brexit. Deuxième série de questions, elle touche cette fois le métalangage, c'est-à-dire le discours de la doctrine, et cette deuxième série de questions s'intéresse aux fonctions de ces discours, puisqu'il s'agit essentiellement de choix de représentation. Deux remarques à cet égard. Les discours du constitutionnalisme ne visent pas toujours à promouvoir le constitutionnalisme tel qu'il est. En effet, il s'agit aussi parfois de le contester. Se développe ainsi une forme de constitutionnalisme dit contestataire ou critique. Certains auteurs, par exemple, critiquent l'orientation idéologique d'une constitution économique libérale qui, dans le cadre du conflit Nord-Sud, favoriserait les intérêts financiers des uns au détriment des autres. Deuxième remarque, les discours oscillent entre une présentation de l'unité ou de la diversité. Alors, l'ensemble de ces discours, enfin, en réalité, les choses sont très complexes, mais pour le dire de façon assez schématique, disons que dans un cas, il s'agit de présenter un monde cohérent, soit moniste, à travers une forme d'axiologie constitutionnelle, soit relevant d'un pluralisme mais ordonné, autour de certaines valeurs, cohérence ou d'équivalence des droits. Dans l'autre cas, la représentation de cette unité ou de cette cohérence est justement perçue comme néfaste ou dangereuse, et il faudrait donc au contraire préserver ces logiques de différenciation qui sont à l'œuvre et étudier leurs relations. La troisième et dernière série de questions touche des questions philosophiques et théoriques, donc elles relèvent cette fois de la métathéorie ou de la métapolitique. Il s'agit d'abord de la définition du droit, puisque finalement, on trouve parfois une forme de réalisme à teinte sociologique, parfois une forme axiomatique d'une théorie kelsenienne. Définition du droit aussi parce que ces discours du constitutionnalisme global affectent les frontières du public et du privé, spécialement lorsque on observe un glissement du droit vers le privé ou vers le social. Un droit donc qui serait soustrait à l'autorité politique et publique. À cet égard, le choix du terme global plutôt que mondial est perçu comme certains auteurs pour éviter de reproduire la logique étatique en faisant référence à une sorte de territoire du monde, d'où le choix du terme global pour certains. Ensuite, c'est aussi un problème de légitimité politique face au manque de consistance de ce qui serait un peuple européen ou un peuple mondial. Et c'est sans doute la raison pour laquelle certains auteurs se tournent plutôt vers la figure du juge pour observer certaines permanences dans la garantie des droits. Des droits des citoyens plutôt que d'un peuple. Abandonner l'équation État, droit, peuple ou la maintenir, les réponses variées qui sont apportées à cette question dépendent finalement largement du choix d'un discours et donc d'une métathéorie. On pourrait se demander s'il n'y a pas là d'ailleurs un certain surinvestissement du discours, puisqu'on attend finalement parfois de ce discours qu'il produise des effets. Autant donc de pistes de réflexion qui sont ouvertes par ce colloque et qui sera donc, je l'espère, l'occasion de discuter et de partager sur ces questions aussi complexes que passionnantes. Alors Denis Barranger a déjà dit un mot du programme, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, je précise que la deuxième journée, celle du mardi, se divise en deux parties. J'ai appelé la première session « Programme académique du constitutionnalisme global » en faisant référence à une expression du professeur Anne Peters, celle d'un programme académique. Ça me paraissait intéressant comme expression justement parce qu'elle montre bien cette dimension d'engagement en faveur d'un discours. Donc le colloque se déroulera sur ces deux journées. Je ne vais pas monopoliser la parole et je vous souhaite à tous un excellent colloque et d'excellentes discussions.